Les rencontres d'Edmond Morel. Régis Autière, Ardoc, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du premier tome d'une série qui sera, à n'en pas douter, aussi magique que le premier album paru, La guerre des Lulus, la maison des enfants trouvés. Et cet album est daté de 1914. En effet, c'est en août 1914 que débute cette histoire, dont le narrateur, au départ, n'est pas vraiment identifié. On devine que c'est un des quatre Lulus, un des quatre enfants abandonnés, qui découvre l'arrivée des Allemands lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, Régis Autière, vous êtes au scénario. La première question serait comment est venue l'idée de construire cette histoire à partir du point de vue des enfants ?
Ah, bonne question. Est-ce que j'ai la réponse ? Je crois que c'est, alors si je me souviens bien, en fait c'est venu de mes enfants, tout bêtement. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'ils me demandaient de raconter une histoire qui ne soit pas forcément écrite de leur point de vue, ou en tout cas du point de vue des enfants, mais une histoire qui s'adresserait à des enfants, qui serait lisible par des enfants. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de la bande dessinée jeunesse ou de la littérature jeunesse. Quand j'écris, j'ai tendance à écrire plutôt pour des ados adultes, enfin même sans réfléchir précisément à la cible à laquelle je m'adresse. Mais voilà, j'avais un peu envie aussi de faire plaisir à mes gamins, et surtout je les ai beaucoup écoutés quand ils étaient petits. Et j'ai eu envie, en fait, d'écrire une histoire où on retrouve dans les dialogues un peu cette fraîcheur de la jeunesse, cette naïveté de l'enfance. Et voilà, donc tout ça, c'est parti de cette envie, je crois.
Vous disiez que vous n'avez pas l'habitude d'écrire pour un public enfant, un public jeune. Le fait que les personnages soient des enfants n'implique pas que l'album soit destiné à des enfants. Au contraire, pour celui-ci, je veux dire.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une bande dessinée jeunesse. Même si au départ, le projet initial, en fait, si je me souviens bien, ça a été... Vraiment, le point de départ, c'était une discussion avec une amie qui travaille à l'Historial de Péronne, qui est un musée sur la guerre de 14-18, et qui me faisait la remarque qu'à l'Historial, donc, ils avaient beaucoup de livres sur la guerre 14-18, donc des romans, des livres jeunesse, des bandes dessinées aussi, alors évidemment celles de Tardy et puis d'autres depuis. Mais en bande dessinée, il n'y avait rien qui pouvait être donné à lire à des enfants. Il y en avait en littérature jeunesse, mais il n'y en avait pas en bande dessinée. Et donc voilà, ça a trôné dans ma tête. Et puis, un dessinateur m'a contacté pour me demander de lui écrire une histoire jeunesse. Et je me suis dit, tiens, je vais partir de cette idée, je vais raconter une histoire avec des enfants, qui s'adresse à des enfants, qui se passe pendant la guerre de 14. Et j'ai envoyé le synopsis au dessinateur, qui m'a dit, écoute, c'est très bien, mais alors moi, la guerre de 14, non, ça me fait peur. Lui, il a vu tout de suite la vision des tranchées, et voilà. Et alors que c'était pas du tout mon propos. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et je parle de l'histoire avec Vincent, il me dit, ouais, mais moi, ça m'intéresse. Et de ce fait, on a commencé à développer l'histoire, et là, je suis parti dans l'écriture vraiment de l'histoire, puisque là, j'avais juste écrit un petit synopsis d'une quinzaine de lignes, peut-être. Et naturellement, en fait, plutôt que de faire une bande dessinée jeunesse, je suis parti vraiment sur un récit tout public. Mais j'ai quand même fait attention à ce que cette histoire-là soit lisible par des enfants, même si c'est pas un récit qui leur est spécifiquement adressé. Je veux quand même que les enfants puissent se l'approprier et le lire avec leur propre niveau de lecture, qui sera différent, évidemment, de celui d'un adulte qui a son background d'adulte, qui a son vécu, qui verra aussi les clins d'œil qu'il peut y avoir dans la bande dessinée, qui sait ce que ça a été que la réalité de la guerre 14-18. Mais voilà, il y a quand même cette volonté de que la bande dessinée soit lisible par tout le monde.
Alors Vincent, c'est Ardoc, c'est le dessinateur qui est avec nous aussi. Alors en 2014, on va beaucoup évoquer le déclenchement de la Première Guerre mondiale, puisque ce sera le centenaire du début des hostilités. Est-ce que au niveau du travail sur le dessin, sur le graphisme, sur la reconstitution des décors, la proximité de ce centenaire a facilité les choses, ou est-ce que votre recherche s'est déroulée autrement ?
Non, alors en fait c'est différent, parce que moi depuis que je suis depuis que j'ai à peu près une vingtaine d'années, j'ai la chance d'avoir un oncle moi qui après la guerre d'Algérie a réuni une collection privée sur la guerre de 14, et mais vraiment 14 hein, que celle-ci, et j'étais fasciné déjà petit à 20 ans, même c'était même à 15 ans si j'ai des bêtises, 15-20 ans, et j'étais fasciné par ça, et il y en avait partout. Et puis, étant né en Picardie, n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents réellement, en tout cas très peu, une grand-mère et un grand-père, et j'étais très jeune quand ils sont décédés. J'ai posé beaucoup de questions à mes parents, qui vivent toujours dans la demeure familiale, une ancienne ferme picarde, qui a été rebâtie avec les dommages de guerre de la grand-mère de mon père. Mais qui, c'était une maison torchie qui est redevenue toute en briques. Et mon père m'a expliqué plein de choses. En l'occurrence, la salle de bain où j'allais quand j'étais enfant, on y voit une porte en sapin rouge, tout simplement, et on y voit une trace bizarre. Quoi. Et c'est ma grand-mère qui lui a raconté qu'en fin de compte, cette trace, c'était la crosse de fusil allemand. Des gens en 14 qui avaient... ils avaient gardé les portes, et des gens en 14, ils avaient aussi tapé dedans. En fait, ça a été réquisitionné plus ou moins et squatté un peu dans toutes les fermes des alentours, dans les maisons picardes et dans les villages picards. Mais le centenaire, en fait, n'a pas eu un impact sur mon travail, mais c'était plus aussi par l'attrait aussi de cette période qui est bizarrement une fascination sur nous, parce qu'on se pose beaucoup de questions, quoi. On a l'impression que c'est tellement loin, mais c'est tellement proche en même temps que... et puis aussi l'esthétique, tout simplement, étant né en Picardie, comme je disais tout à l'heure. Je connais toujours ces maisons parfois avec des toits de chaume, ça existe encore, du torchis, alors délabré, des briques, du bois, et ça m'a toujours plu. Et puis surtout, comme je disais, c'est cet intérêt aussi par rapport à ma propre aussi histoire familiale qui fait que je suis allé me plonger dans la guerre de 14, mais pas qu'au niveau familial, mais au niveau de tous les endroits où elle a pu exister, quoi. Enfin, c'est-à-dire de quoi proche de la Picardie, et les documents qu'on pouvait avoir, et sur Internet aujourd'hui, maintenant, qui est ouvert sur le monde, on peut aussi trouver d'autres choses. Mais en fait, je n'ai pas pensé à un moment du tout au centenaire, absolument pas. C'était vraiment et en plus, c'était vraiment, j'avais demandé déjà à Régis il y a très très longtemps, une histoire avec des enfants. Et quand il m'a dit qu'effectivement, c'est une histoire avec des enfants, en plus en 14, bah, bingo, moi, c'était le sujet qui me plaisait. Et je sentais que quand Régis m'a envoyé les premiers. Découpage et les premiers dialogues, que j'allais m'amuser, et effectivement, je me suis amusé.
La première planche s'ouvre sur un paysage plus ou moins contemporain, où le narrateur prend la parole et dit c'est ici que je jouais dans ces forêts-ci, mais le paysage a fort changé. Est-ce que vous avez eu une sensation de ce changement de paysage? Est-ce que, en regardant les paysages, vous pouvez vous replonger dans ce qu'était le paysage lors de la guerre 14-18?
Alors moi, personnellement, je ne peux pas le juger directement, parce que étant trentenaire, je ne sais pas, mais mon père, lui, a été enfant, adolescent, a travaillé dans cette ferme, a connu ces paysages. Et il est toujours en colère aujourd'hui quand on a balayé les taillis sur les côtés, qu'on rase les bordures, qui est fait justement aussi pour maintenir la vie animale, les insectes, et puis nourrir les animaux. Et il est toujours en rage aujourd'hui, après 70 ans, et je l'ai toujours entendu dire, et je lui ai toujours demandé, mais papa, comment c'était? Toujours cet intérêt de savoir quelle était ma vie, et comment était la vie, où est-ce que j'habite aujourd'hui, quoi. Et il me disait, bah tu sais, il y avait des sous-bois, il y avait des haies, il y avait tout ça, et aujourd'hui... Pour des raisons, on va dire, de commerce agricole, tout simplement, le moindre arbre est retiré et traité avec des produits chimiques, on détruit tout. Les sillons ne sont même plus dans le bon sens, c'est-à-dire que après on s'étonne qu'il y ait des coulées de boue sur les routes, mais effectivement, ce paysage, donc, quand mon père me l'a expliqué, je l'imaginais comme dans la bande dessinée, c'est-à-dire donc des champs verdoyants, et aussi avec du blé, des herbes, des pâtures, et des petites haies qui existent encore chez nous. Et aujourd'hui, justement, bizarrement, en politique agricole, l'Europe demande de replanter des haies, mais elles sont payées. Alors qu'avant, c'était juste du bon sens, tout simplement.
Alors, Régis Sautière, je me retourne vers vous pour entrer dans l'histoire. Le fait d'avoir comme protagonistes principaux quatre enfants, qui sont par ailleurs quatre orphelins, quatre enfants trouvés dans une abbaye, recueillis dans un orphelinat, est-ce que ça vous permet d'avoir un regard plus profond et plus sensible sur cette époque-là ?
Je pense, oui, puis ça permet d'avoir un regard plus distancié. C'est-à-dire que dans la guerre des Lulus, ça se passe pendant la guerre de 14-18, pendant la Grande Guerre, mais on est à côté, en fait. On n'est pas sur le front, on n'est pas avec les soldats, on est avec les civils. On est dans la guerre des Lulus et pas dans la Grande Guerre, quoi. Et ça permet à la fois de montrer, je dirais, en filigrane, en fait, en arrière-plan, les horreurs de la guerre, puisque les Lulus, quand même, tout au long de leur histoire, donc qui va se dérouler à peu près sur 4-5 tomes, on ne le voit pas encore trop sur le premier tome, mais ils vont être quand même confrontés à la guerre. Même si, pour l'instant, c'est juste un écho lointain, c'est le bruit des canons, c'est un soldat qu'ils vont croiser à la fin du tome 1, et puis des soldats qu'ils voient passer au cours du tome 1 aussi. Pour l'instant, ça reste quand même quelque chose d'assez presque évanescent, quoi. On sait que la guerre est là, puis ils ont fini par le deviner parce qu'au début ils ne sont pas au courant du tout. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez lointain pour eux, et petit à petit, ils vont être confrontés à la dure réalité de la guerre.
Il faut dire peut-être pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire l'album, que ces quatre enfants se trouvaient loin de l'orphelinat au moment où l'évacuation a eu lieu. Et donc, ils se retrouvent non seulement enfants, mais seuls aussi dans un village déserté.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire se passe dans un petit village, alors qu'un village fictif, qui est inspiré de villages existants, mais pas besoin de chercher Valancourt sur une carte. C'est comme les villages d'Astérix, ils n'existent pas. C'est un village qui est vraiment à l'est de l'Aisne, donc tout près de la frontière belge. Et évidemment, quand les Allemands arrivent en 1914, donc ils passent par la Belgique et ils arrivent en France. Et donc, tous les villages sont évacués. Donc, il y a des réfugiés qui partent comme ça sur les routes. L'armée française évacue aussi des villages parce qu'ils vont, ils l'annoncent dans l'histoire, ils vont tenter une contre-offensive. Ils vont bloquer l'armée allemande. Enfin, en tout cas, ils vont tenter. Ils n'ont pas envie d'avoir des civils dans les pattes. Donc, ils évacuent le village. On évacue l'abbaye. Seulement, dans la panique, personne ne se rend compte qu'ils manquent quatre gamins. Et ces quatre enfants, comme on est au mois d'août, que c'est les vacances, ils ont fait le mur de l'abbaye, ils sont en train de jouer dans le bois qui est juste à côté, où ils sont en train de construire une méga cabane. Et ce qui fait que quand ils rentrent à l'abbaye, il n'y a plus personne. Alors on se rend compte quand même, quand on réunit tous les habitants du village, les occupants de l'abbaye sur la place du village de Valancourt, qui manquent des enfants. Mais on envoie deux soldats les chercher, les soldats arrivent à l'abbaye, les enfants, eux, restent cachés. Ce qui fait que, voilà, on s'en va en laissant les quatre enfants derrière eux. Et ça va être le début de notre histoire.
Parce que d'une certaine manière, je posais la question pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre, d'une certaine manière, ces enfants sont un peu une métaphore des populations occupées par l'armée allemande. Ils doivent se débrouiller, ils doivent lutter contre la famine parce qu'ils n'ont rien à manger, ils doivent se réorganiser dans cette cabane qui est un abri. Est-ce que c'était au départ cette intention-là, ou bien est-ce que c'est une interprétation qu'on peut donner ?
Oui, c'était une de mes intentions. Enfin, l'intention, c'était vraiment de montrer un petit groupe en mode survie, on va dire. Voilà, un groupe livré à eux-mêmes. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant d'avoir ça avec un groupe d'enfants. Alors, ce sont des enfants, ce sont disons des préadolescents et des adolescents. J'ai voulu aussi qu'il y ait plusieurs tranches d'âge, parce qu'en plus de ça, alors déjà, ça permet d'avoir des caractères différents, d'avoir aussi une vision de la vie qui est légèrement différente d'un enfant à l'autre. Il y a Lucas qui a la vision la plus naïve, parce que c'est le plus petit, et on sent que Lucien, qui est le plus âgé, lui, il a quand même un peu plus de recul, un peu plus d'ironie aussi dans ses propos. Et surtout, l'histoire va se dérouler sur la totalité des années de la guerre de 1914-1918. Donc on va être sur à peu près entre 4 et 5 ans. Et pendant ces 4 et 5 ans, les enfants vont grandir. Ils vont vieillir, ils vont passer de préadolescent à adolescent, même à grand adolescent, et puis d'adolescent à jeunes adultes. C'est-à-dire que Lucien aura à peu près 20 ans quand l'histoire va se terminer. Et évidemment, ils auront beaucoup évolué. Ils auront évolué physiquement. Et donc ça, c'est tout l'art du dessinateur de faire sentir ça, et toute la difficulté. Et puis, ils vont évoluer, évidemment, mentalement, intellectuellement. Ils vont perdre de leur naïveté, ils vont perdre de leur insouciance. Parce qu'ils vont être confrontés à des choses assez dures. Et notamment, là, on voit à la fin du tome 1 qu'ils rencontrent un soldat allemand, et c'est un soldat qui va... Enfin, cette rencontre, en fait, va bouleverser leur vie, pour plusieurs raisons, qu'on découvrira dans le tome 2, donc je ne vais pas les dévoiler.
Déjà dire qu'il rencontre un soldat allemand. Mais si vous voulez, avant que vous ne continuiez, je vais me tourner vers Hardock, parce que, en ce qui concerne les personnages, ces quatre garçons, bientôt rejoints par une fille, ça on peut le dire, une petite fille qui se trouvait là aussi, abandonnée dans le village. Comment est-ce que, Hardock, vous avez fait le casting de ces enfants ? Comment est-ce que, sur base des indications de Régis Autière, vous êtes arrivé à ce que les bouilles de ces enfants vous conviennent?
Alors déjà, historiquement, en fait, quand Régis avait commencé à me parler de ce projet, on avait participé à un collectif, un éditeur qui est chez nous, Aminois, qui est organisateur du festival de bande dessinée d'Amiens, et ça s'appelait Cicatrices de guerre. En fait, moi je considère que c'est un petit peu la jeunesse des Lulu. On racontait l'histoire de gamins qui jouaient à la guerre, en fait, tout simplement, et qui finissaient sur une image assez dramatique. Et il y a des personnages qui étaient assez proches, le temps passant, en fait, on montait le projet ensemble, et puis jusqu'à la signature de chez Casterman, tout simplement, les enfants au départ devaient être vraiment un projet jeunesse, c'était vraiment pour les petits, et puis le projet est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, donc les gamins ont évolué, mais les bouilles après... Régis m'avait donné des indications. En fin de compte, il m'avait dit, bah voilà, il y aura un petit assez costaud, il y aura le petit Lucas, il y aura, et puis quelques éléments, mais c'est tout. Et après, c'est par rapport aussi à tout mon patrimoine, je disais, de bande dessinée franco-belge, et autant les classiques à Grenet qu'aujourd'hui. Et puis, moi, je suis amoureux, en fait, du Grenet comme de la bande dessinée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux pas choisir. Voilà. Il y a du bon dans tout. Donc, et du coup, j'aimais bien aussi ce côté naturel, mon dessin naturel tend vers ce dessin. Et du coup, bah, les tronches, les bonnes bouilles qu'ils ont, en fait, je me suis surtout amusé après à trouver des expressions, quoi, les travailler par rapport à leur caractère. Régis m'a amené les dialogues, puis il m'a amené ces phrases drôles ou moins drôles, humoristiques, où j'éclatais, comme j'ai dit plusieurs fois, j'éclatais tout seul dans mon salon devant l'ordinateur en train de lire le texte. Et ben, c'est le texte aussi qui m'a amené les visions de ses têtes. Et puis le caractère des personnages, donc et puis naturellement le bonhomme, le personnage, on l'a plus en main, il évolue aussi. Donc mais les têtes, j'ai pas forcément, je suis pas inspiré de qui que ce soit finalement. Mais il y avait forcément des réminiscences, comme on explique toujours des lectures de jeunesse. Vous avez le Club des Cinq, les Quatre As, tous ces films qui passent à la télé, enfin tous ces feuilletons avec des enfants, enfin tous ces
l'autobus impérial
que j'adorais aussi, les petites canailles, enfin tous ces trucs là qui étaient en livre et en série animée, hein. Et je pense que c'est un peu de tout ça, tout simplement. Et puis après, bah, c'est à moi de prendre du plaisir et de les faire évoluer. Voilà.
Je posais la question parce que, en lisant le livre, et je l'ai lu deux fois d'affilée, j'ai eu le sentiment que vous aviez trouvé une sorte de complicité artistique parfaite entre les expressions des personnages et les dialogues.
Mais c'est ce que je disais, effectivement, c'est quand Régis m'envoie ces dialogues, je suis le gamin, quoi. Je suis en train de lire, alors j'ai pas les voix, il y a toujours des auteurs de BD qui disent moi j'ai des voix dans ma tête, ou qui disent mais c'est pas la bonne voix quand ça adapte en dessiné. J'ai pas les voix, sincèrement j'ai pas les voix, mais ce sont des images qui me viennent direct, quoi. Je m'imagine, mais de toute façon moi je le sens, hein. Ma compagne me voit des fois en train de faire des gestes ou des tout seul ou des positions, ou parce qu'elle comprend très bien ce que je fais, mais elle sent que je ressens ces personnages, quoi. Je suis le personnage. Alors parfois ça peut être plus ou moins maladroit, mais j'essaye aussi de faire des expressions un peu plus marquées, parce que pour les enfants c'est très difficile d'avoir des traits marqués. C'est comme les femmes quand elles sont parfaites, trop lisses. Pour dessiner c'est très joli, on fait des albums de pin-up, mais quand il faut faire les expressions, nous-mêmes quand on fait les expressions, souvent on se reconnaît pas. Encore plus avec l'âge, vous me direz, mais selon les positions, les cadrages, on ne se reconnaît pas, parce qu'on se voit rarement finalement dans d'autres postures, on se voit même très rarement, à part dans les miroirs. Mais les gamins, voilà, c'est ça, j'essaie de les faire des attitudes qui leur soient propres, quoi, leur donner leur propre vie, avec des traits différents, et ils vont évoluer effectivement dans les autres tomes, avec des creux sous des joues, parce qu'ils grandissent, un peu plus maigres, un peu plus, voilà, une demi-tête de plus, des choses comme ça, quoi.
Alors, dans le dossier de presse qui est constitué sous la forme d'un facsimilé d'un journal fictif de 1900-1915, on voit une photo, vous travaillez ensemble autour d'une table à dessin. Comment se passe le travail entre Régis Sautière et Hardoc ?
Alors, à la base, la photo que vous voyez, c'est un atelier qui est assez récent, donc sur la ville d'Amiens, mais moi, je travaille surtout essentiellement chez moi. Ces derniers temps, je suis venu beaucoup à l'atelier, mais là, pour des raisons, pour ce mois de janvier, c'était un peu plus compliqué, donc j'ai pas pu venir à l'atelier. Mais sinon, bah, on passe par tous les moyens d'aujourd'hui, hein, vous savez, on se voit, on s'envoie donc par des textes, on se voit, soit on se parle sur les réseaux sociaux.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que le scénariste, à un moment donné, vous dit « Ah non, là, je le vois autrement »,
ah, oui,
ou est-ce que
vous vous dites… Là,
oui, c'est ça, dans le travail… De fond.
Mais en fait, c'est un échange, tout simplement. Comme j'ai dit, un scénariste, quand il écrit, il a des images en tête, effectivement. Et étant lecteur lui-même aussi de bande dessinée et connaissant l'image, il a forcément des images en tête. Nous, on essaie au mieux de les reproduire sans les connaître. Mais donc, il me laisse en même temps cette part libre en disant voilà, moi je vois plutôt tel cadrage ou tel. Tiens, ça serait mieux de le voir comme ça. C'est un échange comme ça constamment, qui, sans aucune prise de tête ni quoi que ce soit. C'est un vrai échange, tout simplement. Lui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il me le dit, et inversement, et puis on se dit...
essentiellement sur le storyboard que je vais être amené à intervenir. D'ailleurs, souvent, quand Hardoc vient travailler à l'atelier, il travaille sur les pages de storyboard, puisque c'est vraiment le moment où, voilà, où il y a le plus d'échanges entre nous. C'est-à-dire que comme c'est le moment où se passe là, où se fait la mise en scène, là on va pouvoir voir si ah bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas besoin de supprimer une case ou en rajouter une, ou alors tiens ouais, cette case là est-ce que c'est pas mieux de la voir sous un autre angle ou avoir un plan plus large, plus serré. Donc c'est vraiment le moment privilégié d'échange entre nous.
Ouais. C'est la période de doute, quoi. La période où quand on doute, on peut vraiment dire bah tiens, on va revoir et effectivement rectifier le plaçage de bulle ou effectivement le cadrage.
Si on compare le crayon du dessinateur à une caméra, il y a une variété de plans et de points de vue assez considérable dans la bande dessinée, jusqu'au gros plan sur le mégot qui fume que le soldat jette. C'est votre style, ou bien vous l'avez adapté pour cette histoire-ci au niveau du regard d'enfant?
Non, je pense que quand j'ai commencé à travailler avec Régis il y a quelques années de cela, en fait, Régis m'a aussi beaucoup aidé là-dessus, en fait, sur les cadrages, en me disant, bah, tiens, fais des plans beaucoup plus larges. Mais il y a aussi le fait que la variété, quoi, simplement la variété de cadrage, c'est important pour moi, parce que d'autant plus qu'ici, ça se passe essentiellement dans une forêt, dans une cabane. Imaginez toujours des plans frontaux avec des arbres, avec toujours les mêmes arbres, avec toujours les mêmes décors. Et le but, c'est effectivement d'amener du plaisir, non seulement soit techniquement, mais aussi au lecteur. Essayer d'avoir son œil partout. Ramener de la vie aussi un petit peu les animaux en premier plan, alors que les autres apparaissent dans l'ombre ou des choses comme ça. Et pour ça, on en connaît tous un qui est très fort et que j'admire d'ailleurs par rapport à ces variétés de plans, c'est aussi l'oiselle, qui est... Bon, alors, il ne cache pas qu'il ne sait pas dessiner les pieds, mais on a tous nos défauts, et même, enfin, je dessine comme un pied les pieds, mais bon. Mais l'oiselle, effectivement, a ce côté cinématographique aussi, apporter un œil cinématographique par rapport à la variété des plans. Et ça, c'est du pur plaisir, tout simplement. Maintenant, c'est devenu, j'y pense même plus, c'est plus quelque chose que je me mets à dire comment je vais faire. Des fois, c'est naturel, quoi. Je me dis, il doit venir là, simplement, ça doit être vu d'ici, ça doit être vu comme ça, il doit avoir telle branche là, ou tel cadrage comme ça. C'est devenu naturel, c'est même plus quelque chose auquel je vais penser vraiment des semaines à l'avance. Ça vient dans le dessin naturellement et très peu de gros plans aussi. Il y en a des très gros, mais c'est bien aussi quand il y a beaucoup de, vous savez, de champs dans la vision comme ça.
En tout cas, ça donne une fluidité extraordinaire et au dessin, au fil narratif et aussi à l'histoire. Régis Sautière ne me contredira pas. Mais pour Régis Sautière, j'aimerais terminer cet entretien avec une autre question. Nous sommes chez Casterman. On vient de saluer votre éditeur. Comment se passe le travail avec un éditeur? Quelle a été sa fonction dans ce début d'une série qui va prendre 5 ans?
Alors ça se passe très très bien de façon générale. Je dirais que le gros apport de Didier Borg, donc, qui est notre éditeur chez Casterman, par rapport à La Guerre des Lulus, ça a été d'en faire une série au long cours. C'est-à-dire que le projet qu'on lui a présenté au départ, c'était un gros one-shot de, je sais plus le nombre de pages que j'avais envisagé, mais c'était de l'ordre de 120-150 pages, ou alors éventuellement un diptyque de 2x54 ou 2x62. Et lui nous a dit... Ah, c'est dommage, moi cette série-là, je la sens bien, je trouve qu'il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose avec ces enfants. Ce serait bien de faire un tome par année de guerre, tout bêtement. Et donc je me suis dit, tiens oui, c'est vrai, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à réfléchir et à travailler mon histoire dans cette perspective-là. Donc plus seulement sur une histoire qui se déroule sur un laps de temps assez court, mais sur toute la durée de la guerre. Et c'est comme ça que le projet a vraiment pris corps, a vraiment pris de l'ampleur. Et voilà. Et donc, oui, c'est à mon avis le principal apport de Didier sur la bande dessinée. Après, on lui a présenté les planches régulièrement, mais il nous a fait relativement peu de retours, si ce n'est qu'il était ravi à chaque fois des planches qu'il voyait. Moi, je lui envoie le découpage au fur et à mesure de la réalisation aussi.
Et confiant, c'est important aussi quand l'éditeur est confiant, parce que moi je fais partie des personnes qui doutent beaucoup de mon propre travail, pas celui de Régis, parce que sinon si ça marcherait pas, je serais pas tout seul en train de dire dans mon salon par exemple, mais quand quelqu'un comme ça fait son rôle d'éditeur et qu'on sent qu'il a confiance, effectivement ça nous booste bien, quoi. Sans dire, c'est pas quelqu'un qui dit oui et puis finalement je l'ai édité et puis après on vous oublie, quoi. Pour l'instant, enfin moi personnellement, dans mon parcours avec eux chez Casterman, ça m'a vraiment boosté et ça m'a donné plus de confiance en moi. Donc c'est très important, en fait.
Eh bien, c'est sur ce très important qu'on va terminer cette interview. Je rappelle le titre de ce premier album qui en comptera 4 ou 5 lorsque la série sera terminée. La guerre des Lulus est le nom de la série. Le premier tome s'intitule La maison des enfants trouvés. Au scénario, Régis Sautier. matière au dessin Hardoc, et nous n'avons pas mentionné, mais sa contribution artistique est vraiment apparente, c'est aux couleurs. Hardoc s'est vu accompagné de David François, avec lequel, Régis Autier, vous aviez déjà écrit un album. Alors, je ne peux que recommander à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la bande dessinée de qualité et éventuellement à l'histoire, avec un grand H, racontée à travers la fiction, de se plonger, toutes affaires cessantes, dans La guerre des Lulus, premier tome. On attend avec impatience les suivants. Merci à vous deux.
Merci. Merci.
Les rencontres d'Edmond Morel.